Numéro 1 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a renouvelé la doctrine de l'Église. En bref, Saint Grégoire XVII a donné à l'Église une doctrine complète, officielle et infaillible, le Credo palmarien, la morale palmarienne, le traité sur la Sainte Messe, le traité sur la Très Sainte Trinité, ses propres documents pontificaux, le droit canon palmarien, la Sainte Bible palmarienne, etc., tous infaillibles. Pour la première fois. Il était grand temps. Sans aucun doute, ce travail incroyable a été poussé par la Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église. Numéro 2 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a revitalisé le culte de l'Église. En bref, il a établi le Saint Rosaire pénitentiel, ou Rosaire des Notre Père. Quelle merveilleuse grâce le Saint Rosaire pénitentiel contient! En plus de remédier à tous les maux et de préparer le triomphe de notre très sainte mère, cela nous permet d'échapper au monde, au diable et à la chair, et de nous sauver pour le ciel. Quelle consolation et affection notre mère céleste reçoit lorsque nous la saluons et la louons du fond du cœur comme Dieu lui-même l'a accueillie et louée. Être un enfant de Marie, la sublime mère de Dieu, terrible comme une armée rangée en bataille. Saint Grégoire XVII a établi son récital par les fidèles qui assistent aux saintes messes à l'église, et les grâces sont surabondantes. Les fidèles peuvent recevoir la Sainte Communion jusqu'à 3 fois par jour, en assistant chaque fois à un tour complète de Sainte Messe. Numéro 3 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a mis l'histoire des papes en ordre. En bref, l'histoire des papes était dans un terrible désordre à cause de nombreuses falsifications par les antipapes, souvent assis au Vatican lorsque le vrai pape avait été banni ou même emprisonné. Par conséquent, la véritable histoire des papes a souvent été confondue avec l'histoire des antipapes. Mais Saint Grégoire XVII, avec l'aide de grâce très spéciale et de sa mémoire puissante, a pu résoudre les confusions les plus terribles, une œuvre qui a donné le résultat magnifique, seulement possible pour le pape. Sur un total de 267 papes, 258 sont maintenant canonisés, lamentablement 6 se sont damnés, l'un est un expiateur vénérable dans le purgatoire jusqu'à la seconde venue du Seigneur, et l'autre est un apostat. Le pape qui règne glorieusement, sa sainteté le pape Pierre III, est donc le numéro 267. Numéro 4 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a mis la Bible en ordre. En bref, au cours des travaux entrepris par les conciles palmariens, la présence de falsifications dans les textes sacrés de la Bible est malheureusement devenue encore plus évidente. Bien que tremblant face à l'ampleur du travail, le pape Saint Grégoire XVII a ordonné la rédaction d'une histoire sacrée palmarienne, pour englober tous les livres sacrés et éliminer les falsifications, ce qui a été réalisé lors du deuxième concile, une fois terminé le traité sur la très sainte Trinité et la morale palmarienne, et bien sûr grâce au charisme papal du vicaire du Christ, interprète infaillible des textes bibliques. Dans une vision céleste, le pape Saint Grégoire XVII a prévu la grande œuvre des conciles palmariens. Maintenant, la colombe apparaît en train d'écrire avec la plume dans le concile palmarien, le livre du concile palmarien apparaît du début à la fin, c'est-à-dire avec tout le travail que ce saint concile a fait et fera, et qui dans sa totalité sera l'œuvre du Saint-Esprit. Les interventions du pape Saint Grégoire XVII, bien sûr, ont été très nombreuses dans cette œuvre biblique. Outre ses presque 900 définitions dogmatiques formelles, dont beaucoup étaient liées à des questions bibliques, il a résolu une multitude de problèmes avec ses lettres, que ce soit sur des questions de chronologie, de généalogie, d'histoire, de clarification textuelle, etc. et dans les sessions générales du concile auxquelles il assistait toujours, il résolvait directement les problèmes qui survenaient. C'était un pape qui faisait pleinement usage des merveilleux charismes papaux qui l'ornaient tant. Numéro 5 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a mis en ordre la chronologie de la Bible. En bref, la chronologie de la vie de notre Seigneur est définie en accord avec les détails donnés par Saint Luc, et l'information erronée donnée par l'historien Joseph est rejetée, en raison des nombreuses divergences avec la doctrine conciliaire. Il est devenu clair que Jésus-Christ est né le 25 décembre de l'année 5199 de la création, 7 jours avant sa circoncision le 1er janvier de l'année 1 de l'ère chrétienne. Par cette définition, l'absurdité de l'évolution est démolie. La vie publique de notre Seigneur a commencé avec son baptême le 25 décembre de l'année 30, c'est-à-dire à son 30e anniversaire. Notre Seigneur est mort sur la croix du calvaire le 25 mars de l'année 34 de l'ère chrétienne, exactement 34 ans après son incarnation. De la même manière, tous les événements importants de l'Ancien et du Nouveau Testament ont leur date correspondante. Ce n'est qu'avec le pape que cette œuvre aurait pu être faite. Numéro 6 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI ? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a clarifié les parents de la Sainte Famille. En bref, la très sainte Vierge Marie avait deux sœurs maternelles, Sainte Marie Cléophas, mère des trois saints apôtres Thaddée, Simon et Jacques le Mineur, et Sainte Marie Salomé, mère des saints apôtres Jacques le Majeur et Jean. Le premier mari de Sainte Marie Cléophas était Saint Alphée, père de Saint Matthieu par un mariage précédent. Le troisième mari de Sainte Marie Cléophas était Saint Jonas, père de Saint Pierre et Saint André par un mariage précédent. Cléophas, par son premier mariage avec Rose, sœur de Sainte Élisabeth, cousine de la Vierge, était grand-père des deux apôtres Saint Philippe et Saint Barthélemy. Et beaucoup d'autres parents sont clarifiés. Seulement avec le pape, cette œuvre aurait pu être faite. Numéro 7 dans une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI ? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a ordonné et clarifié de nombreux mystères de l'Apocalypse. En bref, il a défini que, suite à la seconde venue du Seigneur, le royaume messianique sera établi sur terre, la continuation du premier paradis de la création, bien qu'avec une plus grande gloire et bonheur, grâce à l'œuvre de réparation et de rédemption accomplie par le Christ et Marie. Le diable n'aura plus aucun pouvoir pour tenter. Tous les sauvés seront intronisés dans le cœur immaculé de Marie par une goutte de leur sang et une particule de leur cœur. Quand le nombre des hommes sauvés atteindra le nombre des anges dans le ciel, les noces de l'agneau auront lieu, avec l'intronisation de tous les sauvés dans le sacré cœur de Jésus, et ainsi dans l'essence divine. Et alors le grand désir du Père éternel de partager sa divinité avec ses créatures sera satisfait, en leur insufflant le don divin d'omniscience et aussi celui d'omnipotence suppliante, et ainsi elles deviendront co-créatrices avec Dieu de tout ce qu'il créera par la suite. La première chose qui sera créée sera quelque chose d'immense en dehors de l'univers dans lequel tous les damnés erreront pour l'éternité sans fin, car le Christ ne doit pas remettre au Père un univers habité par les réprouvés. Numéro 8 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI ? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a élaboré la doctrine de la présence singulière du Christ en Marie et de Marie dans le Christ. En bref, les âmes du Christ et de Marie ont été créées l'une avec l'autre. Dès le moment même où les épousailles des âmes divines se sont réalisées, la très divine âme du Christ demeurait directement de manière inséparable dans l'âme divine de Marie. Au même instant où l'incarnation du Verbe divin s'est réalisée, le Saint-Esprit a effectué la sublime incarnation des épousailles divines du Christ et de Marie, par laquelle les épousailles spirituelles des âmes du Christ et de Marie se sont étendues jusqu'à leur cœur aussi. Ces épousailles mutuelles et sublimes entre le Christ et Marie étaient par l'intronisation d'une particule du cœur du Christ avec une goutte de son sang dans le cœur de Marie, et par l'intronisation d'une particule du cœur de Marie avec une goutte de son sang dans le cœur du Christ, avec une sublime intercommunication de sang entre les deux cœurs. En vertu de ces intronisations, il existe la présence sacramentelle la plus singulière, réelle et véritable, du Christ en Marie et de Marie dans le Christ, formant un seul cœur mystique, épousaille des sacrés cœurs de Jésus et de Marie, pourtant parfaitement identifiés et sans confusion. Et ils vivent ainsi fusionnés de manière majestueuse et unique, atteignant une communion parfaite, de sorte que toutes les pensées, affections, joies et angoisses de Jésus et de Marie proviennent d'une seule source, leurs divines épousailles. Quelle doctrine papale impressionnante! Numéro 9 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI ? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a élaboré la doctrine de la présence singulière du Christ et de Marie dans le cœur des fidèles. En bref, voici un extrait de son enseignement magnifique dans les conciles palmariens, les épousailles du sang déifique du Christ avec le sang très pur de Marie sont sacramentées dans la goutte de sang de Marie. Par cette goutte, ces épousailles s'étendent aux hommes, dans le but de les incorporer au corps mystique du Christ. Ce sacrement singulier des épousailles est reçu par les nouveaux fidèles de l'Église d'une manière réelle, véritable et physique au moyen du sacrement du baptême sous le plus sublime accident quantitatif de la goutte de sang de Marie, qui devient directement intronisée dans leur cœur, et par concomitance des épousailles une goutte du sang du Christ aussi. Ce sacrement singulier est cette même grâce sacramentée contenue dans le sacrement du baptême, et qui est reçue par l'intermédiaire de ce sacrement régénérant. Le but ultime du sacrement du baptême est de transmettre la grâce sanctifiante aux âmes, c'est-à-dire l'habitabilité du Saint-Esprit. Ainsi l'homme devient divinisé. Numéro 10 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI ? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a développé la doctrine sur la Sainte Messe. En bref, le pape Saint Grégoire XVII a travaillé intensément pour pouvoir nous aider à mieux comprendre le mystère du Saint Sacrifice de la Messe. Nous donnons un court extrait de son enseignement. Doctrine définie par le pape Saint Grégoire XVII, dans le Saint Sacrifice de la Messe, il y a deux sacrifices. Le sacrifice infini du Christ et de Marie au Calvaire, et le sacrifice fini de l'Église, à savoir les bonnes œuvres des fidèles en état de grâce. D'où, dans l'offertoire, le prêtre offre les deux sacrifices, celui du Christ et de Marie, et celui de l'Église. Dans la consécration, le prêtre descend sur l'autel du sacrifice, sous les espèces de pain et de vin, les deux victimes divines, à savoir Jésus-Christ et sa divine Mère sacramentée. Dans la communion sacrificielle du célébrant, il unit les sacrifices finis des fidèles en état de grâce, ceux qui ne sont pas encore unis, au sacrifice infini du Christ et de Marie. C'est uniquement en tant que fruit de cette union de sacrifices que des grâces sont déversées sur l'Église militante, l'Église souffrante, l'Église expectante et sur d'autres âmes en pèlerinage, et cette effusion est surabondante. Numéro 11 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI ? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. La devise correspondante de Saint Malachie convient à Saint Grégoire XVII. En bref, les devises de Saint Malachie ne prouvent pas qui est le vrai pape dans ces temps si difficiles. Néanmoins, ils sont un guide qui renforce notre foi et notre confiance dans la papauté de ce pape éminent. Les dernières devises dans les prophéties de Saint Malachie sont Pastor et nota, Saint Jean 23, il était un pape pastoral et patriarche de Venise avant son élection en tant que pape. Flos Florum, Saint Paul VI sublime martyr du Vatican. Son blason portait trois fleurs de lys. De Mediatat Lunae, antipape Jean-Paul Ier, son règne a duré un mois, d'une demi-lune à la suivante, et toujours avec un sourire. De Labor Solis, antipape Jean-Paul II, la signification du latin est éclipse du soleil. De Gloria Olivae, Saint Grégoire XVII le Très Grand. Se référant à ses très nombreuses canonisations de saints, il dit lui-même dans un document, « Chers enfants, n'oubliez pas notre devise, selon les prophéties de Saint Malachie, cette devise étant de Gloria Olivae. » Nous interprétons que, parmi les différentes significations de cette devise, sans aucun doute l'une est celle de la sainte cause des canonisations. Disons que le Christ, mystérieusement parlant, est un olivier beau et magnifique. Par conséquent, les saints forment les olives belles et magnifiques qui représentent mystérieusement la signification de cet arbre, que nous pouvons assurément appeler le corps mystique du Christ. De plus, la province de Séville, où il est né dans la capitale, est un important producteur d'olives. De Crucet Apocalyptica, Saint Pierre II le Grand. Il a pris position contre la corruption universelle, imposant la loi de Dieu et préparant l'Église pour les événements apocalyptiques à venir qui culmineront dans la glorieuse seconde venue du Christ. Il a défini que l'Antichrist est né à Bethléem en l'an 2000, mystère apocalyptique, une croix pour toute l'humanité. Il a porté la croix des antipapes de Rome et leurs enseignements désastreux. De Gloria Ecclesiae, le pape Pierre III, régnant joyeusement. Au sein de sa papauté, le 50e anniversaire de la fondation de l'ordre des Carmes de la Sainte Face a eu lieu, un ordre qui est la gloire de l'Église et qui, bien que privé de toute sa splendeur précédente devant le monde, avant Dieu a vécu des années de grande gloire, en accord avec sa devise, sa plus grande gloire étant la persécution et le mépris qu'il a reçu. Numéro 12 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI ? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a défini que le Christ confère directement et invisiblement le sacrement de la papauté sur le pape élu, une fois qu'il l'accepte. En bref, le pape Saint Grégoire XVII le Très Grand enseigne infailliblement que lorsque le pape est investi de la dignité papale, notre Seigneur Jésus-Christ, souverain prêtre éternel, par sa propre vertu, impose invisiblement les mains sur la tête de l'élu, lui imprimant un caractère sacramentel, extraordinaire et indélébile, qui consiste en l'impression d'une triple croix dans l'âme et dans le cœur, ainsi que l'état sacerdotal mystique correspondant. Le huitième sacrement ou sacrement de la papauté n'est pas un sacrement que l'Église administre. Le pape reçoit également la grâce des triples épousailles sacerdotales mystiques avec la divine Marie dans sa dignité de fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils et épouse de Dieu le Saint-Esprit. C'est une doctrine infaillible que la triple couronne imprimée dans le sublime état papal mystique et sacerdotal de l'âme du pape est le siège sacro-saint approprié pour le don divin hautement sublime de l'infaillibilité papale et pour les pouvoirs suprêmes du pape. Numéro 13 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a clarifié l'histoire de l'ordre des Carmes ou Essènes. En bref, il a défini que les Carmes de l'Ancien Testament étaient désignés par le nom d'Esséniens, un ordre fondé par le grand prophète Saint Élie. Ils avaient leur propre sacrifice de pain et de vin, ainsi que leur propre prêtrise, la prêtrise essénienne, quelque peu supérieure à celle du Lévitique. La très sainte Vierge, dans son âme préexistante lors de la grande apparition à Saint Élie pour la fondation de l'ordre du Carmel, a conféré à Saint Élie lui-même le sacerdoce essénien dans ses trois grades. Ce sacerdoce, comme le Lévitique, a pris fin lors de la dernière scène avec l'institution du sacerdoce éternel par notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant la vie publique du Seigneur, l'ordre du Carmel a continué avec la fondation des premières communautés chrétiennes par notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres et les disciples appartenaient à la branche masculine, les femmes pieuses à la branche féminine, et le reste des fidèles au troisième ordre. Numéro 14 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a clarifié la doctrine sur le jugement particulier. Grâce aux enseignements magistériels du pape Saint Grégoire XVII le Très Grand, nous savons que le jugement particulier est la dernière opportunité mystérieuse et miséricordieuse de salut, donnée par le Christ à chaque être humain à l'heure de la mort. Afin de pouvoir ainsi donner l'opportunité du salut à quiconque atteint la mort clinique dans le péché mortel, dans lequel celui qui accepte le discours de la Divine Marie décide de son propre salut, ses péchés sont pardonnés, il devient membre de l'Église et reçoit ainsi la sentence salvifique prononcée par le Seigneur. Brièvement, dans les grandes lignes, le jugement particulier se produit comme suit. En présence du Christ, juge suprême, le jugement particulier de chaque âme se déroule à quatre moments distincts, dans l'ordre suivant, 1. Le discours de Satan. 2. Le discours de la Divine Marie. 3. L'acceptation ou le rejet du salut par celui qui est jugé, par lequel il détermine sa propre destinée éternelle. 4. La sentence favorable ou défavorable du Christ. Grâce au discours de la Divine Marie, personne n'est sauvé ou damné sans avoir connu la vraie foi, car en dehors de la véritable Église il n'y a pas de salut possible. Si, parfaitement contrits, ils décident définitivement de leur salut, ils reçoivent alors la goutte de sang de Marie et deviennent membres de l'Église militante, puisque personne n'est sauvé en dehors de la vraie Église. Ainsi, grâce au vrai pape, Saint Grégoire XVII, nous comprenons comment la grande majorité des innombrables multitudes qui meurent en dehors de l'Église ont été sauvées. Numéro 15 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a clarifié la doctrine sur le trait Saint Joseph. En bref, il a été conçu avec une justice imparfaite ou le reflet du Saint-Esprit. C'est pourquoi Saint Joseph est quasi immaculé et partiellement irrédimé. Le très Saint Joseph a été présanctifié dans le ventre de sa mère au troisième mois de sa conception. Et dès le premier moment de sa présanctification, il a apprécié l'usage de la raison, la présence du Saint-Esprit dans son âme, la vision béatifique, la science infuse et d'autres dons exaltés. Il a été confirmé dans la grâce et a reçu le privilège de l'impeccabilité au degré le plus parfait, de sorte qu'il ne pouvait jamais commettre aucun péché, mortel ou véniel. Le patriarche Saint Joseph, dès le moment de sa présanctification, s'est consacré à Dieu par le vœu de virginité perpétuelle et est plein de grâce, de sorte qu'après Marie il dépasse tous les anges et saints ensemble. L'apparition de Saint Joseph au calvaire comme coprêtre de la Divine Marie ne pouvait manquer, pour lui offrir sa compagnie et sa consolation dans ces moments de terrible solitude et d'amertume. Qui pourrait déclarer de si beaux enseignements? Seul le vrai pape. Numéro 16 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a défini la doctrine sur le sens spirituel intuitif. En bref, c'est une doctrine infaillible que l'âme humaine possède un sens spirituel intuitif, ou fomentateur de vertus naturelles, ou une passion de passion ordonnée au bien. C'est une doctrine infaillible que le sens spirituel intuitif, ou fomentateur de la vertu naturelle, ou la passion de l'âme des passions ordonnées au bien, est infusé par les âmes divines du Christ et de Marie à l'instant même de la création de l'âme dans chaque nouvel être humain. Le sens spirituel intuitif est le grand guide, car c'est le sens approprié pour nous guider dans de nombreuses choses. Lors d'un voyage, le sens spirituel intuitif nous permet souvent de connaître par anticipation des choses que nous contemplons ensuite avec nos sens corporels. Nous avons l'habitude de dire, j'ai senti que cela allait arriver et c'est ce qui s'est passé, j'avais ce pressentiment, et cela s'est vraiment produit. Tout cela est le pressentiment du sens spirituel intuitif, qui perçoit de loin, là où les autres sens ne peuvent pas l'atteindre. En outre, le sens intuitif spirituel est le grand prémoniteur du bien ou du mal qui peut s'abattre sur l'âme. Car souvent sans avoir été averti par personne, l'âme a une prémonition qu'en faisant ou en évitant quelque chose, elle ferait du bien, et c'est ce qu'elle fait. L'homme, en vertu du sens spirituel intuitif, qui est une passion bien ordonnée ou un fomentateur de vertu, a une plus grande tendance naturelle au bien qu'au mal de la part de l'âme, bien que l'âme ne puisse accomplir aucun acte de vertu naturelle par elle-même sans le mouvement de la grâce actuelle. Quel merveilleux enseignement, défini par le pape. Numéro 17 d'une série de 17 réponses à la question clé suivante. Comment savons-nous que Saint Grégoire XVII le Très Grand a été élu pape directement par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il était donc le véritable successeur du pape Saint Paul VI ? Par leurs fruits ou actes, vous les reconnaîtrez. Saint Grégoire XVII a défini la doctrine de la conscience ou lumière naturelle de la raison. En bref, c'est une doctrine infaillible que la conscience humaine ou le superpouvoir de l'âme est la lumière naturelle qui illumine la raison. C'est une doctrine infaillible que la conscience humaine, ou le superpouvoir de l'âme, ou la lumière naturelle qui illumine la raison, est produite par l'amour mutuel des âmes divines du Christ et de Marie au moment même de la création de l'âme de chaque nouvel être humain. C'est une doctrine infaillible que la conscience humaine, ou le superpouvoir de l'âme, ou la lumière naturelle qui illumine la raison, est infusée par les âmes divines du Christ et de Marie au moment même de la création de l'âme de chaque nouvel être humain. Dans l'âme de tout être humain, au moment même de la conception, la loi divine ou éternelle est imprimée pour toute l'éternité, bien que fortement obscurcie en raison de l'héritage du péché originel, mais impressionnée par Dieu avec toute sa sublime luminosité. Alors, ne jouez pas avec l'idée que Dieu n'existe pas, puisque nous avons une loi divine gravée dans nos âmes qui dit sans aucun doute qu'il existe. Voyez comme Grégoire XVII écrit très clairement. Nous pourrions continuer avec beaucoup d'autres indications claires qu'il était le vrai pape qui a succédé à Saint Paul VI.